sera, on la sera.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.
Autre zone.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Autre Monde, Autres Ondes, l'émission proposée par Attaque 44. Cette émission a été co-réalisée par Étienne, Pierre et moi-même, Aurélie. Comme chaque mois, nous vous invitons à découvrir un sujet d'actualité à travers les témoignages de personnes qui se mobilisent, participent à la vie de leur territoire et de les mettre en regard d'analyses portées par des spécialistes, des chercheurs et des chercheuses. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième volet de notre sujet sur la ruralité. Dans le premier volet, on avait été à la rencontre de personnes qui s'engagent à des échelles qu'on avait qualifiées d'infra. Infra, c'est-à-dire à travers notamment leur métier ou leurs activités, sans pour autant qu'ils se positionnent comme des militants ou des militantes. Cette fois, on a eu envie d'aller à la rencontre de personnes qui se mobilisent dans un esprit revendiqué de lutte pour défendre des causes ou s'opposer à des projets qu'ils jugent dangereux ou inutiles. Et avec elles et eux, on s'est demandé en quoi la ruralité est un territoire propice à la lutte, mais aussi s'il y avait des luttes spécifiques à ce milieu et quelles formes elles pouvaient prendre. Et pour commencer, on vous propose de retrouver la géographe Valérie Joussaume, qui nous partage son analyse sur la spécificité de la campagne comme territoire propice à la lutte, mais aussi ses réflexions sur la réalité des paysans. Enfin, elle nous parlera de son expérience d'élue dans une petite commune rurale.
Moi, ce que je vois comme différence, c'est que la campagne... redevient un lieu de la révolte. Ça, c'est Guillaume Faburel qui le dit. Il dit la campagne était le lieu de la révolte puisque c'était là où habitaient les paysans, alors que l'aristocratie était plutôt un peu dans... Enfin, ils avaient leur résidence d'été, mais habitaient plutôt dans les villes. Et on peut dire que les jacqueries, enfin, les mouvements populaires, c'était dans les campagnes. Avec la modernité, au fond, les ouvriers se sont retrouvés regroupés dans les usines et dans les villes. Et donc, les lieux de la révolution sont devenus les villes avec la modernité. En tout cas, au XIXe siècle, les mouvements révolutionnaires, les révoltes sont vraiment dans les villes. Guillaume Faburel dit, là, la révolte va retourner dans les campagnes, dans les périphéries métropolitaines. Et moi, ce que je remarque, c'est que toutes les alternatives ont plus de risques d'être absorbées par le système capitaliste dans les villes et les métropoles que dans les campagnes. Donc, par exemple, pour moi, les mouvements artistiques genre street art, etc., dans les années 80, ont été digérés, en fait, par le système du capitalisme tardif, du système néolibéral, et ils ont servi à la gentrification des quartiers populaires d'ouvriers qui étaient en train d'être évacués des villes métropolitaines où ne restait plus que, puisque la production partait en Asie. Et donc, pour moi, toutes les alternatives, toutes les altérités en ville, elles se développent en ville. Mais elles ont plus de chances d'être absorbées, digérées, en disant « vous êtes cool », etc. Et ça alimente juste le système du capitalisme tardif. Alors qu'on a moins de ce risque-là dans les espaces ruraux, où on va avoir, pour le coup, des alternatives vraiment alternatives, qui n'ont pas d'ambition de gentrification, de revalorisation des quartiers, etc.
Alors maintenant, je vais vous enlever votre casquette d'universitaire et puis plus de celle de citoyenne, puisque vous m'avez dit que vous étiez engagée en tant que conseillère municipale. Pourquoi ? Et qu'est-ce que vous y faites pour répondre à, je dirais, vos défenses de valeurs ?
Alors, ça va paraître un peu cliché de dire ça, mais en fait, vous savez, dans une commune de 1000 habitants, il n'y a qu'une liste. Et en général, ben, on finit par vous connaître et on dit, tiens, ça serait bien, Valérie Jousseau, mais elle est à la fac, elle est dans l'aménagement, peut-être que... Je ne saurais pas si moi, je serais allée spontanément parce que j'ai déjà beaucoup de travail. Et ça prend du temps, en fait. C'est un engagement au niveau d'une commune de 1000 habitants. Quand vous êtes juste conseiller municipal, c'est totalement bénévole, en fait. C'est difficile de faire passer ces engagements, de les concrétiser. C'est assez difficile parce que moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'aménagement, bien sûr. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle en sciences sociales l'instant polyanie, c'est-à-dire c'est un moment de... En fait, toutes les règles juridiques, comptables, etc., elles ont été construites dans l'ère de la modernité, pour l'ère de la modernité. Donc, il n'y a aucune règle juridique, comptable, qui est faite pour soutenir la transition. Pour l'urbanisme, par exemple, en ce moment, c'est le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'on est passé du open bar sur les territoires, où au fond, la ville moderne, c'est la ville périphérique. Hein, il faut que ce soit propre, pratique, fonctionnel. Donc, il fallait faire sur du plat. Donc, on a fait autour des villes anciennes. On a fait la ville moderne sur les terres agricoles et sans aucun problème. Et là, on se rend compte de la consommation de terres. Et là, on est dans le zéro artificialisation nette. Donc maintenant, le truc, c'est il faut rénover, densifier les cœurs de bourg. Moi, je l'interprète... Alors, on va dire, c'est nouveau, c'est super, c'est la transition écologique. Moi, pour moi, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'après avoir modernisé les périphéries urbaines, en faisant du lotissement, de la grande distribution, de la grande zone industrielle, on a modernisé les périphéries urbaines. On avait abandonné les cœurs de bourg de l'ère paysanne ou les cœurs de ville de l'ère paysanne parce que c'était ni propre, ni pratique, ni fonctionnel. Ça ne rentrait pas dans les clous de la modernité. Mais là, on va moderniser maintenant les cœurs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout des choses innovantes, on fait ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire des immeubles. Donc, après avoir banalisé, modernisé les périphéries, on va banaliser, moderniser les cœurs de bourg. Mais il n'y a rien d'innovant, parce qu'à aucun moment, on ne pose la question de est-ce que l'homme peut habiter la nature sans la détruire? Est-ce qu'on peut avoir un habitat totalement réversible? Et en plus, c'est une planification centrale de plus en plus coercitive. C'est-à-dire, petite ville de demain, des nouveaux programmes, petite ville de demain, etc. On dit, ouais, c'est super. Bah, sauf que c'est l'État qui dit c'est quoi les petites villes de demain et qui dit je finance ça, 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 ça. Et donc tout le monde va faire la même petite ville de demain. Pour moi, ces programmes-là, c'est juste que le système moderne devient de plus en plus planifié et on va faire le modèle unique de la ville. Mais il n'est jamais question d'accepter qu'on fasse des yourtes. Il n'est pas question de se dire est-ce qu'on peut faire des maisons en terre, paille, et que c'est obligatoire parce que comme ça, il n'y a aucune trace, c'est recyclable, etc. Vous voyez, est-ce qu'on peut habiter la nature sans la polluer? Il n'en est pas question. Moi, je suis très mécontente, en fait.
Et alors, les gens qui vous entourent, quand vous défendez ces arguments-là, quel écho?
Il y a un peu tous les imaginaires en fait qui cohabitent dans les vieux bourgs comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont plus ou moins encore dans une base de relationnel paysanne, donc ils sont du coin, donc la localité, la lignée, ils sont un peu là-dedans. Il faut savoir composer avec eux parce que c'est eux qui font le vieux fonds anthropologique communal et puis c'est eux qui possèdent les terrains. Ensuite il y a les modernes. Ils vont être dans c'est propre, c'est pratique, c'est fonctionnel. Donc, si on pouvait avoir un drive, la route, machin. Donc, il y a ça aussi. Notamment, les boomers sont très modernes dans leur désir. Donc, ils veulent tout goudronner. Ils veulent mettre des bacs à fleurs. Ils veulent un urbanisme qui fasse quasiment urbain. Vous voyez, du mobilier J.C. Deco. Je ne sais pas si c'est une publicité de dire ça. Mais vous voyez, ce genre de mobilier très urbain, vert ou rouge. Alors que Nantes est en train de vouloir se donner un côté rural. On a les espaces ruraux qui veulent se donner un côté urbain et qui disent d'ailleurs le centre-ville, alors que tout le monde dit c'est le bourg, mais c'est marqué centre-ville. Bon, et quand vous allez à Orvault, que plus vous vous rapprochez de la ville, là vous avez des panneaux, bourg d'Orvault, bourg de Saint-Herblain. Vous voyez, cette inversion complète des réalités vécues. Donc il y a les modernes, et puis il y a les gens qui sont plus dans la transition, qui sont plus dans l'idée de garder un côté petit bourg rural, de revaloriser des formes de ruralité, de valoriser peut-être sur du low-tech, mais avec une qualité de vie et une qualité environnementale. Donc il y a un peu de tout. Je dirais que ceux qui sont au pouvoir, ce sont les boomers modernes. Donc ce n'est pas toujours évident.
Dernière question tout de même, c'est comment faire le lien aujourd'hui entre les campagnes investies en partie par une population qui veut s'approprier cette transition sociale et le monde urbain. Comment faire le lien entre ces deux univers qui apparaissent opposés, mais pour certains, finalement, les luttes sont les mêmes. En tout cas, la perception, la représentation du monde peuvent apparaître assez proches.
Moi, je pense que ce qui peut faire le lien... c'est l'humilité du monde urbain. C'est-à-dire que l'ère de la modernité, bien sûr, elle est née dans les villes. Et donc, il y a d'abord eu une superposition entre culture moderne et ville. Et donc, la culture, les espaces ruraux sont restés plus longuement dans une culture paysanne. Et donc, on peut dire qu'il y a deux sentiments de supériorité de la ville vis-à-vis de la campagne. Il y a un sentiment de supériorité sociale, parce qu'on va avoir des classes sociales dominantes, plus dominantes dans les villes et des classes sociales plus dominées, que ce soit l'agriculture, même si dans le milieu agricole il y a de tout, hein. Mais, et puis les ouvriers, etc. Donc il y a une supériorité sociale, mais il y a aussi un sentiment de supériorité culturelle, c'est-à-dire le syndrome du plouc, c'est pas seulement une insulte sociale, c'est une insulte culturelle, c'est-à-dire ceux qui ont eu cette culture paysanne plus tardivement. Cette culture de la modernité, elle a ravagé en deux siècles l'environnement et les rapports sociaux. En fait, la modernité a une haine de l'altérité. C'est Alain Deneau, le philosophe Alain Deneau, qui l'a développé. Il y a une haine de l'altérité dans la modernité, c'est-à-dire que dans le bouquin qui s'appelle « Le sacrifice des paysans, une catastrophe anthropologique et sociale », ils disent à un moment donné qu'est-ce qu'on appelle le développement, qu'est-ce que la société moderne appelle le développement, qui est son but. Le développement, répondent-ils, les auteurs, le développement, c'est l'éradication des cultures paysannes de la surface du globe. Et donc, je pense que pour rétablir le contact entre les modernes, qui sont plutôt des urbains, et les espaces ruraux, qui sont des descendants de cette société paysanne, et d'autres d'ailleurs, ça peut être des chasseurs-cueilleurs ailleurs, pour rétablir le contact, il faut d'abord sortir de cette haine de l'altérité, de sortir de ce sentiment de supériorité et d'avoir un peu d'humilité.
Mais quels sont les moyens potentiels ?
Il faut faire une grande opération de reconnaissance du sacrifice des paysans. Mais il faudrait qu'on ait carrément une bascule politique et qu'au pouvoir arrive un pouvoir favorable à une transition radicale, qui dit, voilà, grande politique du retour à une agriculture écologique, et on apaise les mémoires collectives en disant, nous avons sacrifié la culture paysanne, c'était une erreur, un peu comme on fait, par exemple, avec les populations autochtones du Canada, c'est-à-dire la reconnaissance de la blessure. On n'est pas du tout dans cette logique-là pour le moment. Dans le cadre de l'État français tel qu'il est, ça ne vous aura pas échappé que notre président a dit que l'agriculture 2030, c'était numérique, robotique et génétique, c'est-à-dire de l'hypermodernité à fond. Donc bientôt, après la fin des paysans, c'est la fin des agriculteurs. On aura des robots avec des ouvriers agricoles sous-payés et des terres qui seront la propriété de je ne sais quelle entité d'agrobusiness. C'est justement parce que d'un côté on a les pouvoirs qui soutiennent toujours l'hypermodernité, alors que de plus en plus de gens considèrent que cette hypermodernité elle est dystopique et veulent autre chose, ça vous aura pas échappé qu'entre les deux on a donc une tendance de plus en plus coercitive des pouvoirs. Donc pour le moment il n'y a pas de solution au problème que nous soulevons ici. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution tant que les tenants de la transition n'auront pas pris le pouvoir politique. Et je ne vois pas l'affaire se faire tout de suite, mais les choses peuvent basculer, on ne sait pas.
I know a guy. got himself a small farm. Wife and kids, few cows, pigs and chickens. He's everywhere, but you can't see him, oh no. He loves his job, you never hear him complaining. You can take a farmer out of country, but you can't take the country out of the farmers. No way, man. You got to hear what I'm gonna say. Not everyone is just like you. Not just like you.
Voilà, donc à travers l'analyse proposée par Valérie Joussaume, on comprend bien cette méconnaissance et donc la difficulté que ça entraîne dans notre relation au monde paysan, mais aussi notre propre difficulté à changer de paradigme. Et pour creuser ces enjeux de transition et aussi de rapport au monde paysan, on a été à la rencontre de Léna, des Soulèvements de la Terre. On lui a demandé c'est quoi les Soulèvements de la Terre ? D'où ça vient et comment ça marche. Tout d'abord, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création, comment ça s'est organisé, la création de ce mouvement, ses origines ?
Donc les Soulèvements de la Terre, c'est une campagne d'action contre l'artificialisation des terres et l'accaparement des terres agricoles. Ça a été créé il y a 2 ans. Lors d'une grande assemblée qui rassemblait à la fois des collectifs du mouvement climat, des collectifs paysans et un syndicat paysan qui est la Confédération paysanne, et aussi des militants plutôt du milieu autonome. Et donc à la suite de 2 jours de discussion, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en avant des luttes locales donc qui justement se battaient contre l'artificialisation ou l'accaparement des terres, donc à la fois dans le but d'être un mouvement donc, qui était plus ancré territorialement que n'est le mouvement climat, par exemple, et aussi dans l'idée de faire le lien donc, avec le monde paysan en général, parce qu'on voit que dans le milieu militant, globalement, c'est vrai qu'on agit peu sur ces questions-là, et donc c'était aussi important pour nous de marquer vraiment cette convergence.
Et aussi pour peut-être préciser un peu les choses, parce que tout le monde n'est pas aussi au fait que toi et que vous sur un certain nombre de notions. Est-ce que tu peux préciser un petit peu pour les auditeurs qu'est-ce que c'est justement l'artificialisation et l'accaparement des terres ?
Du coup, l'accaparement des terres, c'est donc... C'est une dynamique qui est en œuvre depuis des dizaines d'années pour s'accaparer notamment les terres agricoles, mais pas que. On pense surtout au fait que maintenant on a des entreprises agricoles qui décident de s'étendre sur des centaines et des centaines d'hectares. Et ça, en tout cas, c'est une des grosses dynamiques d'accaparement contre lesquelles on se bat, même si au final, l'artificialisation, c'est une forme d'accaparement. Enfin, s'accaparer des terres, c'est en fait voler des terres qui devraient être un bien commun. Et donc, voilà, soit pour y faire de l'agriculture industrielle, soit aussi pour les artificialiser, pour installer des usines. Et en fait, en France, là, le site Reporter a répertorié plus de 500 luttes contre des projets polluants et imposés en France. La plupart de ces projets, ils nécessitent d'artificialiser des terres qui pourraient nous nourrir dans des buts qui sont clairement pas pour le bien commun et qui sont contestés. Et nous, via les soulèvements de la terre aussi, on voulait justement appuyer ces luttes-là. Il y a des personnes à l'origine des soulèvements de la terre qui donc habitent non loin de Nantes, qui se sont battues contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui ont vu justement la force que pouvaient avoir ces mouvements habitants-là. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes, je pense, du mouvement climat qui sont arrivés dans les soulèvements de la terre. C'est que c'est vraiment porteur de sens aussi, vu que nos actions, elles sont pas hors sol.
Et du coup, quand tu dis que c'est un mouvement local, est-ce que c'est les luttes réellement de ce département ou est-ce que c'est des luttes locales ici et ailleurs ?
Non, le mouvement, il... parce que bon, j'ai parlé de campagne d'action, mais c'est vrai qu'on a une forme hybride entre un mouvement et une campagne d'action. Parce que du coup, on est des dizaines et des dizaines d'organisations à s'être reconnues dans le texte d'appel des soulèvements de la terre qu'on a écrit. Mais on voit bien que voilà, il y a des personnes qui s'impliquent fortement dans les soulèvements de la terre, qui s'en réclament, donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un mouvement de ce point de vue-là. Mais en même temps, ce qui nous lie, voilà, c'est, on est d'organisations différentes, et ce qui nous lie, c'est le fait d'organiser des actions. Pour l'instant, étant donné qu'on construit ça tous ensemble avec des organisations nationales, mais aussi des luttes locales, et qu'on a surtout envie d'être dans des luttes qui ont envie de passer à une étape supérieure. Souvent, en fait, les luttes qui viennent dans les soulèvements de la terre, c'est qu'elles ont tout essayé. Elles ont fait des pétitions, elles ont fait des manifestations, elles ont fait déjà peut-être des premières actions de désobéissance civile. Et elles se disent, bon là, il faut qu'on passe un cap, il faut qu'on s'organise à une échelle nationale, et peut-être qu'on ait des modes d'action plus offensifs. Et donc, elles savent qu'elles vont trouver toute une palette de militants qui vont pouvoir les aider, et qu'elles vont pouvoir... en tout cas, peut-être penser des modes d'action plus novateurs et compter aussi sur un plus grand nombre de personnes.
Alors, tu parles de différents modes d'action et des actions novatrices. Quelle forme ça prend, justement, vos actions ?
Au début, dans le cadre des soulèvements de la terre, on essayait vraiment donc, d'aller sur le terrain dans une lutte qui nous avait paru collectivement intéressante, donc sur plein de points. Que ce soit le fait que ça pouvait faire le lien avec... le milieu paysan, ou aussi par exemple que ça pouvait montrer des enjeux qui sont intéressants et dont on ne parle pas souvent, typiquement les anciennes ceintures vertes maraîchères en ville qui disparaissent alors qu'elles sont hyper importantes pour les habitants et qui sont considérées juste comme des terres qu'il faut bétonner pour densifier la ville. Et donc en fonction de tout ça, donc on décidait d'aller dans ces luttes, et on avait au début vraiment une palette de modes d'action très, très variés. Mais j'ai l'impression que les spécificités des soulèvements de la terre, c'est les actions de reprise de terre. Donc où on arrive sur des terres qui ne nous appartiennent pas et on installe des paysans. On est allé sur des vignes qui étaient devenues des friches, alors qu'il y a plein de jeunes paysans qui veulent s'installer dans le Jura. En fait, le vin dans le Jura, ça commence à être assez coté. Et donc là, on est allé défricher ces terres et la Confédération paysanne du Jura est actuellement en négociation pour les récupérer. Pour des jeunes paysans. Donc ça, c'est le premier type d'action un peu singulier qu'on porte. Et le deuxième type, c'est les actions de ce qu'on appelle du désarmement, en fait, il s'agit de démanteler les infrastructures qu'on estime à l'origine donc, du ravage écologique en cours. Et là, on a porté plusieurs actions là-dessus. Les plus connues, c'est celles contre les mégabassines. Et ces actions, elles sont importantes pour nous parce que, justement, si on parle du... Souvent, on nous associe à des modes d'action qui sont plus offensifs que d'habitude dans le mouvement climat. En créant les soulèvements de la terre, on s'est dit, il faut vraiment montrer que collectivement, on est aussi capable donc, de porter ces gestes forts et de se dire que... toutes les machines qui broient le vivant, c'était possible collectivement de les mettre hors d'état de nuire. Et j'ai dit collectivement, c'est important parce qu'on a envie de faire ça tous ensemble lors de manifestations. Lors de ces actions, il y a des personnes qui sont masquées, il y en a qui ne sont pas masquées, il y a des paysans, il y a des militants écolos. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Il y a le fait de faire ça en groupe et de se soutenir tous ensemble à plusieurs milliers, c'est quelque chose d'assez fort parce qu'on a envie de montrer qu'on est légitime à le faire et c'est aussi pour ça que dans le cadre des soulèvements de la Terre, c'est des actions qu'on porte toujours collectivement, de jour et...
Il y a plusieurs choses là sur lesquelles je voudrais revenir. Il y a effectivement ces termes que tu utilises de désarmement, sabotage, puisque il y a un récent article qui est paru dans Le Parisien et qui montre que voilà, il y a un focus en tous les cas qui est mis sur les soulèvements de la Terre comme un mouvement radical et qui vous désigne un peu, alors qu'on a bien compris que c'est vraiment un mouvement qui rassemble plusieurs personnes. Il y a une pétition un appel en tous les cas que vous avez lancé. Est-ce que tu veux en toucher deux mots de ça?
Oui, mais on voit qu'il y a un récit policier qui est en train de se construire donc, autour de la radicalité des mouvements écologistes. Et en fait, de base, on n'est pas les seuls ciblés. Là, ça fait des mois qu'on parle de la radicalité d'Extinction Rebellion. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en 2019, ils faisaient déjà toutes ces actions. Et là, d'un seul coup, aller s'enchaîner à une grille, ça devient quelque chose de très radical. Et il faut faire attention à ces jeunes, peut-être qu'ils pourraient vraiment devenir des dangereux terroristes. Et nous, là, depuis qu'on a été particulièrement ciblés, on a vraiment voulu réagir directement parce qu'on pense en effet qu'on veut faire peur aux gens.
Peut-être que c'est aussi cette question de la radicalité nécessaire.
Oui, carrément. Enfin, on le voit bien, surtout dans les méga-bassines. On n'a pas rencontré un collectif qui, depuis un an, faisait des petites manifestations et s'est dit direct « on va aller démanteler ces bassines ». Ce qui s'est passé, c'est que ça fait des années qu'ils luttent dans le Marais Poitevin et qu'ils ont vraiment tout essayé. Et certes, les recours juridiques fonctionnent dans une certaine mesure. Enfin, là, il y a des méga-bassines qui ont été jugées illégales. Mais depuis qu'elles sont jugées légales, déjà rien ne se passe. Et ensuite, c'est pas ça qui va nous permettre d'enrayer tous les protocoles là, qui ont été signés et qui prévoient des dizaines et des dizaines de bassines en France. Là, on voit bien qu'il y a nécessité à agir et à agir à la hauteur des enjeux. Et c'est ce qu'on fait. Et donc oui, on se sent légitime à porter des actions aussi radicales, comme on pourrait le dire, ou offensives. Enfin, moi, j'aime bien le terme de radicalité, parce que pour moi, c'est revenir à la racine du problème. C'est pas du tout juste dire que, je sais pas, on va devenir des terroristes ou des personnes dangereuses. C'est justement de dire que y a un problème très grave, et ben nous, on veut agir à la hauteur des enjeux, quoi.
Merci. Est-ce que t'as envie de dire quelque chose qu'on n'aurait pas traversé ou...
Donc le 25 mars, c'est notre prochaine grosse mobilisation de prévu. Ce sera encore contre les méga-bassines. Et pour l'instant, on ne sait pas encore où on va se retrouver. Il faut rester alerte sur les réseaux sociaux des soulèvements de la Terre. Mais bon, il y aura de nouveau une grande manifestation contre les méga-bassines et de nouveau des actions impactantes contre celles-ci. Donc voilà, on vous encourage à rester informés. Il y aura une réunion d'information à Nantes d'ici quelques semaines.
Super. Merci beaucoup.
À travers l'entretien avec Léna, on entend donc comment les soulèvements de la Terre sont un mouvement rejoint par différentes organisations qui permettent de venir en soutien à des luttes locales. Luttes locales qui, sinon, ont parfois bien du mal à se faire entendre. Par exemple, à Avigneux de Bretagne, Étienne, tu as été à la rencontre du collectif Avigneux Totalement.
En effet, Avigneux de Bretagne, un projet porté par l'entreprise Total, a rencontré la résistance des habitants et des habitantes. J'ai rencontré Pascal, du collectif Avigneux Totalement, ainsi que Yves, de Notre-Dame-des-Landes Poursuivre Ensemble, pour en apprendre plus sur cette mobilisation. Pascal nous explique de quel projet il s'agit.
Alors, ce projet nuisible, ou projet secret, c'est le projet d'une station Total, alors de déplacer une station Total existante sur la commune de Avigneux de Bretagne. Le projet a été découvert lors d'un footing dominical avec ma fille. On a vu un panneau en pleine campagne, un panneau donc de permis de construire qui avait été accordé à Total pour construire une station sur 6 hectares de terres agricoles et de bocage. 6 hectares, mais à terme, c'est 10 hectares qui devraient être pris. Ce projet est assez ancien parce que au départ, il est quand même de 1998, donc l'époque au départ de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport ayant été donc abandonné, on pensait, nous, que ce projet dont on avait entendu parler il y a très très longtemps, mais juste entendu parler, sans aller plus loin, était abandonné. C'est pour ça qu'on était très surpris de le voir ressortir sans savoir d'où l'utilité en fait.
Pascal poursuit en nous expliquant pourquoi elle s'oppose à ce projet.
Alors, ce projet pose problème parce que, alors déjà sur l'emprise donc des 6 hectares, au départ, à terme, ce sera donc 10 hectares, et surtout son emplacement entre donc deux affluents du Gèvre, à proximité et d'ailleurs même sur des zones humides. Alors, nous avons la crainte surtout de pollution, voilà, de pollution sur tous les des cours d'eau qui sont d'abord limitrophes de ce projet, et puis qui vont traverser les terres et surtout aller se jeter dans le Gèvre.
Pascal m'a ensuite expliqué comment le collectif s'est organisé.
L'année 2021 a été une année où on s'est renseigné pour essayer d'avoir des réponses. N'ayant aucune réponse ou très peu, nous avons créé un collectif qui s'appelle Un milieu de Bretagne totalement. L'idée était de se réunir, d'abord savoir qui était au courant ou pas au courant de ce projet, qui était prêt avec nous à essayer de se battre pour voir ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait lutter contre ce projet. Alors on s'est rendu compte que les voisins étaient pratiquement tous les voisins étaient derrière nous, se constituaient en collectif. Notre deuxième approche a été de se diriger quand même vers Notre-Dame-des-Landes pour suivre ensemble. On les a contactés et ils nous ont tout de suite ouvert les bras pour d'abord nous écouter et surtout à nous épauler dans notre lutte en fait. Et c'est un soutien précieux. En fait, ça a été le point de départ, alors pour le collectif, ça a été le point de départ de la partie beaucoup plus active. Parce que la première année, comme je disais, 2021, a été vraiment pour comprendre et voir comment on pouvait faire pour que ce projet ne sorte pas de terre. Mais on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas une partie beaucoup plus dynamique et beaucoup plus active, on n'arriverait jamais à rien. On s'est déplacé à plusieurs conseils municipaux. On a mis des t-shirts, on s'est déplacé à 4, 5 aux conseils municipaux avec des t-shirts. On avait écrit Total non-projet de station, Total pollu, Total détruit, pour qu'on daigne nous écouter. Voilà, ils nous ont quand même écoutés, mais encore aujourd'hui, on ne sent pas du tout au niveau de la commune de Vigneux, alors je parle de la mairie, on ne sent pas du tout un appui. Voilà, ils nous ont écoutés par politesse, mais on n'a pas d'appui. On a demandé à ce qu'un article soit fait sur le journal de Vigneux, la mairie nous a refusé totalement tout article sur le petit journal de Vigneux. Heureusement, il y a eu cette application Vivi, en fait. Le Vivi, alors je parle de Vivi. Vivi est une application, en fait, créée par des anciens journalistes, je pense, ou d'ailleurs des journalistes. C'est bénévole. Ils ont créé ce site qui informe la commune de Vigneux de tout ce qui s'y passe. Donc, eux ont pris ce projet en main. Avant de prendre ce projet en main, ils se sont déplacés. Ils ont pris connaissance du projet, ils ont pris du temps pour voir quel était l'impact de cette station, en fait, hein, de ce projet de station. Et suite à leur déplacement, à leur étude, ont accepté de relayer un petit peu notre projet sur l'application, en fait, pour faire connaître aux habitants de Vigneux ce projet. Et alors, on a eu également un dernier soutien qui a été précieux, qui a été de Ségolène Amiot, donc une députée en fait. Alors, à l'époque, elle n'était pas députée, mais elle a pris le temps de venir. Elle nous soutient toujours aujourd'hui. Elle a remonté le projet donc beaucoup plus haut, parce qu'elle a remonté carrément au niveau national. Elle attend des réponses qu'elle n'a toujours pas eues d'ailleurs. Donc là, je parlais de Ségolène, mais il y a eu aussi également, il y a eu effectivement l'AZAD, l'école des Tritons, et beaucoup d'associations aussi, parce qu'on a demandé aussi, on a sollicité la Bretagne Vivante, toutes les associations, il y a eu la LPO, il y a eu. Et je pense que sans toutes ces personnes et ces associations, on n'est rien en fait. On peut pas stopper des tels projets. Il y a vraiment besoin d'avoir tous ces intervenants, toutes ces personnes qui d'abord qui nous donnent l'énergie de nous battre et puis qui nous apportent un soutien qui est précieux, qui donnent leur temps, qui donnent leur énergie, leur savoir-faire pour pouvoir stopper ces projets. Hein, ces projets. Et heureusement que toutes ces personnes sont là, parce que autrement on ne pourrait pas.
Yves, de l'association Notre-Dame-des-Landes Poursuivre Ensemble, était également avec nous. Il nous a raconté comment son collectif s'est engagé dans cette lutte.
Alors moi je précise que l'association Notre-Dame-des-Landes Poursuivre Ensemble, elle a pour but, comme objet, entre autres, de soutenir toutes les luttes contre les grands projets, les grands et petits projets inutiles et nuisibles. D'une part, c'est un de ces objets. Et l'autre objet, c'est de travailler en soutien à tout ce qui se passe sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Quand Pascal et le collectif Vigneux Totalement sont venus nous voir, ben nous, on ne pouvait que dire ben, « Banco, on y va !» parce que c'est dans notre ADN, on va dire. Et en plus, ça nous a profondément choqués d'imaginer qu'on allait détruire une dizaine d'hectares de bocage juste pour une station qui n'a pas de raison d'être, quoi. Du coup, bah, nous, tout de suite, on a essayé de programmer un temps de mobilisation. C'était la date du 26 avril, hein, si je ne me trompe pas.
Tu connais bien, d'ailleurs.
Oui. oui, parce que justement, il y avait une journée qui était nationale contre les projets inutiles, qui était programmée par notamment l'association Terre de Lutte. Et du coup, on s'est inscrit carrément dans cette journée, nous, en portant la lutte contre le projet de station Total. Et du coup, on a mis en route la rédaction d'un tract, d'un flyer, les contacts presse. Voilà, il y a une démarche de fait aussi auprès de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec qui on est quand même très proche, et qui ont aussi tout de suite été partants. Ensuite, il y a eu la journée du 26 juin qui était là, un pique-nique. Et ensuite, le dernier temps fort, c'était le week-end du chantier collectif de l'école des Tritons, où ils sont venus à une vingtaine, 20-25, d'horizons divers et variés, qui faisaient un chantier sur la ZAD à l'école des Tritons, et qui ont mis en pratique leur chantier sur le lui-même de la lutte contre le projet de station Total.
Ce qui a permis aussi de retrouver des... L'idée était aussi de retrouver des espèces protégées qui n'étaient pas mentionnées dans les études de Total. Parce que quand ils ont donc demandé l'autorisation pour détruire des espèces protégées, il y a un certain nombre d'espèces qui ont été répertoriées, tant au niveau du vivant, enfin au niveau du vivant toujours d'ailleurs, mais tant au niveau des animaux, j'allais dire, qu'au niveau de la végétation. Et on s'est rendu compte que les espèces présentes sur le site n'étaient pas répertoriées. Et donc l'idée était quand même de retrouver ces espèces.
Et donc c'est à la suite de ces trois temps forts, hein, qu'il y a eu l'effet boomerang, enfin, l'annonce que le projet était en sursis.
Oui, en fait, début septembre, la sous-préfecture a organisé alors une réunion, c'est pareil, qui était toujours un peu secrète, parce que les maires des différentes communes alentours de Vigneux ont été convoqués à Châteaubriant pour une réunion. Alors, ils ne savaient pas du tout pourquoi ils y allaient. La maire de Vigneux a également été convoquée. La députée, donc Ségolène Amiot, a été également convoquée. Et ils ont appris une fois sur place qu'ils étaient convoqués pour parler du projet, de ce fameux projet. Et ils ont appris que ce projet était mis en sursis pour une durée d'un an. Un an pour que soient étudiées d'autres possibilités. L'ADIRO et la sous-préfecture ont donc dit qu'ils étaient surpris de voir l'opposition qui s'était mise en place face à ce projet. Ils ne s'attendaient pas du tout à avoir une telle opposition, que ce projet soit médiatisé. Donc c'est une petite bouffée d'air frais pour nous. Alors la mobilisation reste toujours là, parce qu'on est toujours actifs, on est toujours à l'écoute pour ne pas que ce projet se fasse. On se battra jusqu'au bout, donc avec toutes les personnes qui sont à nos côtés, mais voilà, pour le moment on a un sursis.
Finalement, j'ai voulu savoir ce que Pascal avait appris, ce qu'elle avait retenu de cette lutte.
On se rend compte aujourd'hui que de tels projets, parce que c'est pareil, à côtoyer d'autres personnes qui ont les mêmes, enfin, qui ont créé des associations pareilles pour en lutte contre des projets inutiles, hein, on se rend compte que tous ces projets sont faits en fait en toute opacité. Moi, j'ai souvent posé la question, à quel moment on aurait pu l'arrêter ? En fait, jamais. On n'aura jamais pu l'arrêter parce que tout ce qui est passé, c'est passé sans qu'on soit au courant. On nous a dit, il faudrait vous tenir au courant de ce qui se passe. En fait, il faudrait régulièrement aller sur les sites, en tant que citoyen, sur les sites de la préfecture. Il faudrait pratiquement toutes les semaines ou tous les 15 jours aller à la mairie, voir les panneaux d'affichage. Alors, quel citoyen fait ça aujourd'hui ?
Ken, toi, qu'est-ce que tu retiens finalement de cet entretien ?
Pour ma part, je retiens deux choses de cette rencontre. La première, c'est de constater que de tels projets peuvent toujours s'imposer aux habitants avec une telle opacité et un tel déni de démocratie. La seconde, c'est que la lutte paye. La lutte gagne quand elle est collective et quand elle réussit à réunir autour d'elle des alliés de tous horizons.
D'ailleurs, dans ce témoignage, on entend bien donc évidemment l'importance de la convergence des luttes, puisqu'elle parle du soutien qu'elle a eu au niveau de la communication avec un groupe de journalistes locales, et puis aussi le lien avec donc Notre-Dame-des-Landes Poursuivre Ensemble, mais aussi avec l'école des Tritons. Et on a justement été à la rencontre de Jasmin, un des initiateurs de l'école des Tritons, qui nous présente ce projet, comment il est en tant que tel un moyen de travailler justement aussi à ce changement de paradigme dont on parlait en introduction avec Valérie Joussaume, mais aussi comment il peut venir en tous les cas soutenir d'autres luttes. et comment aussi on entendra « Nous ne sommes pas tout seuls ». Vous allez aussi entendre que il y a pas mal d'agitation autour de nous, puisqu'on a été rencontrer Jasmin justement à l'occasion d'un rassemblement en soutien à une autre lutte.
Toi, tu es à l'origine de l'école des Tritons ?
Oui. Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter comment l'idée de l'école des Tritons est venue ?
C'est le lieu où ça se trouve, les planchettes, c'est un lieu que j'ai connu comme un peu la... Le centre social de la ZAD avant 2012, avant l'opération César, donc il y a plus de 10 ans. Et là, pendant un petit laps de temps, dans les 10 ans après l'opération César, on avait le droit d'entamer la reconstruction de maisons sur des endroits où elles ont été détruites à cette occasion. Et pour moi, il fallait reconstruire ce lieu, il fallait que ce lieu continue de vivre d'une façon ou d'une autre. Et le fait de projeter la construction d'une maison, ça m'a vraiment donné l'envie d'en faire quelque chose de précis. Et tout de suite, j'ai eu l'envie d'un lieu comme ça où les gens, où des humains peuvent découvrir les autres êtres vivants de la ZAD. Voilà, et donc aller à la rencontre des plantes, des animaux, avoir un coin pour lire des bouquins, pour regarder au microscope, pour faire des dessins. Et voilà, et pour... Moi j'aime bien dire, c'est pour les enfants de tous les âges, de 5 à 105 ans et plus. Et aussi pour un lieu pour réfléchir, pour concevoir des luttes pour le vivant et avec le vivant.
Ah, il m'a pas entendu.
Voilà. Donc... apprendre ensemble, réfléchir ensemble, pas du tout une école descendante comme l'éducation nationale. Quoi.
Toi, t'es naturaliste, c'est comme ça que ça t'est venu aussi, cette envie de transmettre finalement ton savoir aussi et ton métier.
Ouais, depuis tout petit, je suis botaniste. Le truc, c'est de faire des listes des plantes sauvages que je rencontre sur un lieu donné. Petit à petit, j'ai eu envie de dire aux êtres humains que les plantes sauvages elles étaient vraiment bien et sympas et qu'il fallait les sauver. Du coup, petit à petit dans ma vie, je me suis mis de plus en plus à animer des balades à la découverte des plantes. Et voilà, et maintenant j'adore faire ça. J'ai fait ça énormément sur la ZAD à l'époque des naturalistes en lutte et même avant. Parce que les naturalistes en lutte, on voulait découvrir des plantes et des animaux protégés qui permettaient juridiquement de ralentir le projet d'aéroport. Mais on a aussi réussi à rendre populaires ces plantes et ces animaux sauvages. Et ça, c'était vraiment très chouette et très important à faire.
En fait, il y a un peu deux niveaux de lutte. Il y a un niveau de conscientisation en fait, du vivant et un autre niveau qui est plus politique.
Eh ben, moi j'ai du mal à dire qu'il y a des choses qui sont pas politiques. Du coup. Voilà, entrer dans la lutte, c'est partir d'où on est pour aller un peu plus loin. Ça peut être au niveau du départ de la conscientisation, de découvrir que les animaux et les plantes sauvages ont une vie. Et ça peut aller très loin dans la désobéissance et dans l'action. Et là, enfin, on a vraiment une biosphère à sauver, là, c'est vraiment chaud, c'est le cas de le dire. Et du coup, il faut que tout le monde bouge à partir de là où chaque personne se trouve, de bouger un peu vers la lutte et de un peu renverser ce monde qui va droit dans le mur. Et tous les niveaux sont importants, quoi. Je pense qu'il y aura des moments où on va inventer des façons de lutter incroyables. Il y a des façons où on va apprendre à dessiner une pâquerette et je sais pas, tout sera important du moment que ça nous amène un peu plus vers une action. Voilà.
Maintenant, ça en est où l'école des Tritons ? Je veux dire, toi t'es un peu à l'initiative et ouais. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont rejoint ? Comment ça s'organise ? Et puis qu'est-ce que vous organisez aussi
on
comme...
On a une petite équipe autour de 5 personnes. De temps en temps, là, on en est à organiser des petits événements, des petites semaines de chantier, chantier-action, tout ça. Et on a une maison à construire, du coup, doucement.
Et c'est quoi, du coup, les chantiers-action ?
Cet été, il y avait chantier-école, reprise de savoir, du coup... Ce qu'on a fait là, c'est on a fait des relevés naturalistes. Avec, il y avait différents genres de différentes disciplines naturalistes sur les chauves-souris, les escargots, les plantes, etc. Et en même temps, c'était une rencontre de, voilà, enfin, pour partager des connaissances, partager des études que des gens ont fait, des choses comme ça, et des techniques. Par exemple, le dessin subjectif, dessiner le lieu où on est là, mais tel que le voit une salamandre, du coup, vit du sol, avec voilà, le danger, c'est les gens qui marchent. Voilà, des petites cartographies subjectives. Et le tout, la semaine se terminait en allant à un endroit où il y avait un projet absurde de station totale, à quelques centaines de mètres d'une station existante, et de rejoindre les gens qui sont dans cette lutte locale-là, et de croiser toutes nos envies, toutes nos idées, voilà, et de faire aussi des relevés naturalistes là-bas, et des cartographies, et voilà. Et ça a soutenu la lutte, ça lui a donné de l'énergie, et en ce moment-là, Total a suspendu son projet.
C'est la deuxième fois que tu arrives à participer, en tous les cas, à la suspension d'un grand projet inutile, on pourrait dire, grâce à cette entrée-là, quoi.
Ouais, là, c'était moins grand qu'un aéroport, mais oui, ça fait toujours plaisir. Les victoires dont on ne nous parlera jamais, c'est quand un préfet ou quelqu'un qui projette des grands travaux inutiles a suspendu son stylo en l'air et a dit non, on va pas tenter le diable. Voilà, et ça, on nous le dira jamais, quoi. Tous les projets qui n'ont jamais été rendus publics parce que ah non, là, il y a trop. Voilà. Ouais. C'est ça qu'on nous dira pas, c'est ça qui compte. Quand on était dans la lutte contre le projet d'aéroport, il fallait tous les jours penser à ces projets-là qui, pendant ce temps-là, ne se faisaient pas. Et même si l'aéroport avait été fait, il se passe quelque chose. Et il faut se dire, dans toutes les luttes qu'on fait, c'est pas parce qu'on a la grande victoire finale, le grand soir, sur cet endroit, cette lutte, qu'il ne faut pas rien faire et qu'il ne faut pas y aller tous les jours. Parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres choses qui ne se font pas. Il y a des gens dans l'État ou dans les grandes boîtes qui se mettent à réfléchir, et ça, voilà, ça compte aussi.
Est-ce que par rapport à ça, à l'école des Trutons, à la manière de mener des luttes, tu as envie de rajouter quelque chose ?
Qu'on n'est pas tout seul, voilà, enfin, déjà entre êtres humains, voilà, on gagne à lutter ensemble, mais aussi y a tous les êtres vivants là, de la planète qui nous attendent, qui nous font vivre déjà de base. Ouais, c'est, voilà. Et qu'il faut se battre pour tout ce monde-là, et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Voilà.
Et là-dessus,
ça fait plus que des milliards, quoi. C'est, ouais.
Et est-ce que tu, en étant naturaliste, tu est-ce que tu peux dire que eux aussi se battent ?
Bah, certainement, et certainement qu'on capte pas quand ils et elles se battent. Mais oui, et c'est pas facile parce que, en fait, c'est nous qui parlons le même langage que les gens qui détruisent. Du coup, nous, on a un rôle spécial. Voilà. Mais on peut traduire, on peut souvenir, on peut s'entraider. Enfin, je dis à Notre-Dame-des-Landes, on s'est bien battu pour le bocage, et le bocage s'est bien battu pour nous. Voilà, il y a des arbres qui sont morts à l'occasion. Sans les haies, on se serait pas caché comme ça. Il y aurait des tas de choses qui seraient pas passées, quoi. Du coup, on lutte ensemble, quoi.
Juste pour finir, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, aussi aux enfants
Ouais, alors bah, pour l'instant, c'est que notre activité n'est pas très élevée, mais on a une liste de diffusion pour être mis au courant des chantiers, des rencontres, des balades. Voilà.
Voilà, donc n'hésitez pas à écrire à l'école des Tritons pour être tenu au courant de leur prochain rendez-vous. On arrive à la fin de ce cycle sur la ruralité. Ce qu'on peut retenir de tous ces entretiens, c'est vraiment la diversité des moyens et des niveaux de mobilisation possibles et comment elles sont toutes et tous importantes et complémentaires. Puisque dans le premier épisode, on a entendu comment, à travers leur travail ou leur engagement sur leur commune, des personnes essayent de faire bouger des lignes, à créer du lien social, que ce soit à travers des événements culturels ou en créant des lieux de rencontre. Certaines invitent les habitants de leur territoire, mais aussi des gens de passage, à s'interroger sur des sujets comme le féminisme ou la manière de s'alimenter, la manière dont on circule sur ces territoires et aussi parfois de mieux les comprendre à travers une interrogation sur l'histoire de ces territoires. Et puis, dans des niveaux d'action plus militantes, comment des mobilisations citoyennes, comme on vient de l'entendre avec le témoignage de Vigneux de Bretagne, c'est des mobilisations qui partent souvent de l'intuition d'un ou plusieurs habitants-habitantes, permettent d'ouvrir le dialogue et de créer des collectifs citoyens qui, en s'associant à d'autres, comme tu l'as dit, Étienne, permet d'avoir gain de cause. Donc là, on l'a entendu notamment avec le rapprochement avec l'École des Tritons, mais aussi avec Notre-Dame-des-Landes, Poursuivre Ensemble. C'est d'ailleurs aussi le rôle que s'est donné ATTAC, hein, qui travaille tout au long de l'année sur des chantiers qui permettent d'alimenter et de venir en soutien à des luttes, mais aussi de tisser des liens justement entre les différents acteurs de la lutte. Et enfin, on a aussi donc traversé la question de la radicalité. Et même si on a entendu qu'il y a une attaque hein, contre les actions menées par certains mouvements écologistes, on peut se questionner au vu de tout ce qu'on a traversé, de l'opacité, de la difficulté d'avoir accès à de l'information, de l'immobilisme de l'État face à certaines urgences climatiques, entre autres, si cette radicalité, certaines formes de radicalité, en tous les cas, ne sont pas nécessaires. Voilà, et enfin, ce cycle a été l'occasion de parler de différentes luttes, de différents thèmes qui touchent le milieu rural et qui, pour autant, nous concernent toutes et tous, notamment la question donc, de l'aménagement du territoire, de l'énergie aussi, hein, avec la question de l'eau et de la préservation des ressources naturelles et des terres, et puis évidemment la question de l'agriculture, avec le témoignage de Jocelyn Guéda, hein, qui montre comment les paysans, évidemment, sont engagés dans cette transition vers une agroécologie, et puis aussi comment leurs actions ont une incidence sur l'environnement aussi en positif, et puis évidemment grâce à l'analyse apportée par Valérie Joussaume, notamment sur notre lien aux mémoires anciennes et aussi sur notre difficulté à changer de paradigme. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu le premier épisode, il est en réécoute sur la page de l'émission ou sur le site d'Attaque 44, donc évidemment n'hésitez pas. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission et on ne pouvait pas la clore sans évoquer le climat actuel de mobilisation sociale autour de la réforme des retraites. Attaque mène donc une campagne contre cette réforme que nous vous invitons à retrouver sur notre site internet. Mais si vous voulez en savoir plus sur la manière dont on fonctionne au sein d'Attaque, sur nos différents chantiers et sur nos différents moyens de mobilisation, on vous donne rendez-vous ce samedi 28 janvier donc à la Maison des Citoyens du Monde, où on organise des ateliers de rentrée. Donc ça, c'est plus pour les adhérents d'Attaque. Mais dans la foulée, au Bras de Fer, à partir de 19h, on organise le premier bar Attaque de l'année, qui sera consacré à l'accueil des curieux et des curieuses qui souhaiteraient peut-être nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, et on vous offre le premier coup à boire. Voilà, donc on conclut cette émission sur ces rendez-vous, et on se retrouve la prochaine fois autour de la question de l'autogestion, traitée par Manon, qui s'est intéressée aux centres sociaux autogérés en France et en Italie du Sud. À bientôt.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Dans ce monde, on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Parler d'égalité, et comme des cons les a crus, démocratie fait-moi marrer.